Alexandre Marqueas, vous êtes en résidence à l'Arsenal de Metz. Une question qui me vient, et ça va certainement faire venir notre thème, ça a été récemment le chalutier qui a chaviré au large de la côte libyenne dans la nuit du 18 et 19 avril de cette année. Il y a eu 850 personnes qui sont mortes. C'est vraiment une des grandes catastrophes. On n'avait pas d'expérience de cette nature avec des migrants en Europe. Et puis, la semaine dernière, je lisais une série d'articles sur la Grèce, en fait, sur les migrants qui partaient de l'île de Kos pour aller vers la frontière macédonienne. Comment vous percevez cette situation? Et j'ai cru qu'elle servait aussi de votre thème à votre projet à l'Arsenal de Metz.
Mon projet, c'était depuis 2 ans de faire une forme de requiem ou veillée funèbre sur ces questions des migrants, parce que à la fois la proximité et l'ampleur de cette catastrophe la rend extrêmement présente, urgente. Et c'est vrai que ces derniers mois, avril et mai, début mai 2015, il y a une accélération des drames, il y a aussi une accélération des réactions politiques autour de ça. Et des fois, on a affaire même carrément avec des idées farfelues, mais si je décode bien les choses, l'idée centrale des politiques, c'est de faire en sorte à ce qu'on entend le moins possible parler ou qu'on soit pas dérangé par cette histoire des migrants, plutôt que s'attaquer aux causes, plutôt que de défendre aussi les principes qui font qu'on est des gens civilisés et de respecter les droits de l'homme, porter secours à ces personnes-là comme on le doit. Alors mon projet, basé sur un grand poème sur les migrants d'Eri de Luca qui date de 2005, rien n'a changé en fait. C'est absolument inutile de prétendre que les gens et surtout les responsables découvrent ça maintenant. Je dirais, de toute façon, c'est étrange aussi de se dire qu'il y a une limite, genre des lignes rouges, au-delà de laquelle les morts suscitent plus de réactions, et quand il y a très peu, ça va, c'est dans la norme. Il y a une forme de pensée à la fois j'arrive pas à comprendre et me révolte complètement.
C'est un peu un paradoxe pour les Européens. Ils ont du mal à percevoir le monde dans cette globalité liée à Internet. Évidemment, l'Internet est la principale illustration. Tout nous est disponible. On ne peut pas ignorer.
On ne peut pas ignorer. Oui, je ne sais pas comment on arrive à faire pour vivre avec ces déséquilibres. On a la présence de ces gens-là et puis des causes à fuir, le manque de sécurité, un espoir de respect de leur personne, et on les a chez nous. Ça reste quand même comme une fiction. Un fait divers comme un notable de village qui aurait tué sa femme parce qu'elle est trompée. Enfin, c'est quelque chose de très très anodin. Enfin, je généralise un tout petit peu, mais le fait que depuis plus de 15 ans, on a quasiment rien fait, ça me paraît extraordinaire. Et évidemment, il y a une accélération qui est due à la situation au Moyen-Orient, Syrie, l'État islamique, aussi d'autres types de difficultés en Afrique, mais quand même, il n'y a rien qui est tombé sur nous par surprise.
Et en même temps, peut-être qu'il y a une catégorie qu'on pourrait parler, c'est la notion de fermé et d'ouvert. On a l'impression que l'Europe se renferme sur son idéal passé, et qu'elle ne sait pas comment réagir face à un univers ouvert dont elle est, on peut presque dire, le principal acteur avec les États-Unis, si on veut.
Oui, et quoique l'Europe par rapport aux États-Unis, je pense qu'elle a jamais vraiment, malgré beaucoup d'expériences douloureuses, elle n'a pas pu gérer et conceptualiser la question de l'autre. C'est qui l'autre? Qu'est-ce qu'il représente? D'où il vient? Je pense qu'il y a une sensation d'être le centre du monde et tout ce qui se passe autour, c'est vraiment à la périphérie dans les deux sens, quoi, à la fois géographiquement et au niveau de l'importance. Je pense que l'Europe est beaucoup plus endormie que les États-Unis, mais...
On a quand même une grande expérience coloniale entre 1830, mais on peut dire des années 1870. On cite souvent Jules Ferry du côté de l'école, mais on peut aussi parler du côté du colonialisme. L'Europe s'est étendue très très loin. La France, les conséquences de la guerre 71, a construit un empire qui a largement dépassé ses frontières et ses potentiels peut-être.
Oui, mais il y a qu'à voir dans le monde universitaires où se sont développées ce qu'on appelle les études post-coloniales, ben c'est pas en France, en Allemagne et en Angleterre. Si maintenant de plus en plus de chercheurs des sciences humaines s'intéressent et essaient d'inclure dans leur pensée ces types d'éléments-là, qui ramènent aussi toujours et encore à chercher qui est l'autre, en quoi il est autre, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse chez lui et pourquoi et comment vivre ensemble finalement. Et quel est notre monde? Est-ce que, à quel point il doit être figé? À mon avis, pas du tout. Un monde figé, c'est juste un rêve totalitaire. Le monde bouge et il bougera encore. On pourra rien faire contre ça.
Le 20e siècle et le 19e siècle, on a été marqué par un mouvement nationaliste très fort. La notion de nation qui s'est définie pour les Français sur le modèle du citoyen, notion d'universalité dans la création de la nation française. Et d'autres pays, l'Allemagne, mais aussi la Grèce, puisque quand même le mouvement philhellénique est né en France, en Allemagne, en Angleterre, a été très important dans la définition de la nationalité. À ce moment-là, il existait des populations ottomanes en Grèce.
À mon avis, et je suis pas historien, mais ces mouvements-là étaient au début intimement liés avec la question de la liberté, la question du progrès des droits humains. Et au bout d'un moment, il a dévié, il a pris une telle dimension que c'est devenu un mode d'exclusion. Ne serait-ce que le fait qu'il y a quelques années, on avait, et puis on a peut-être encore toujours en France, une question de sur ce que c'est l'identité. Déjà, qu'est-ce que c'est une identité? Et pour moi, c'est une notion qui est toujours en mouvement. On peut pas figer les choses, dire que voilà, la France c'est ça, la nation c'est ça et notre identité c'est ça, et puis on essaye de préserver. Il faut comprendre comment les choses évoluent.
Tu vois un petit peu le changement de notre nation?
Oui, je vois qu'il y a quand même une tendance de repli que je ne sentais pas il y a quelques années quand je suis arrivé, mais c'est un repli plus globalisé, plus intellectualisé, moins spontané comme il y a quelques années qui était beaucoup plus peut-être bassement raciste. Mais oui, non, mais je sens une différence, et puis je le sens aussi en Grèce, les mêmes causes produire toujours les mêmes conséquences en histoire, et on voit qu'il y a un parti ouvertement xénophobe et raciste qui arrive quand même à être présent à l'Assemblée nationale et avoir une voix qui porte. C'est assez désolant.
Comment est reçu un projet de cette nature à l'Arsenal de Metz par le public?
Je ne sais pas encore, mais je pense que ça suscite un intérêt du fait que, et ça c'est vraiment une question à laquelle je crois beaucoup, la musique d'aujourd'hui, la création musicale d'aujourd'hui doit parler de notre temps, et même de notre temps dans un laps assez serré d'ici et maintenant, de ce qui se passe, de faire une musique qui est un peu liée à la vie, et essayer de rejoindre toutes ces notions musicales qui sont un peu diachroniques, qui habitent différents états de l'évolution de la musique et du son organisé, et faire les liens avec l'instant que nous vivons, avec les révoltes fugitives et instantanées.
Et puis j'ai remarqué, comme dans votre évolution de votre musique, un réintérêt pour la culture grecque, la culture populaire, les chants, ces dimensions vocales. Je voulais savoir si comment elle se vit, ce retour à une histoire, une historicité de la Grèce, et cette confrontation à la figure de l'autre.
Je l'ai vécu petit à petit, ces changements de direction, enfin une évolution de ma direction. En fait, c'est venu presque par hasard, parce que j'ai travaillé sur les Bacchantes d'Euripide, et c'est une tragédie qui m'a toujours intrigué. En essayant de creuser, j'ai vu que bon, c'est une tragédie d'une violence inouïe, avec des scènes de meurtre, des massacres collectifs assez insupportables. J'ai fait différentes pièces autour des Dionysos et du culte dionysiaque qui essaye de retracer de différentes manières, mais toujours les mêmes trajets, c'est-à-dire celui qui part du plaisir sensuel, de l'ivresse, passe par la réunion mystique et sacrée autour du religieux, pour devenir folie furieuse et refus de l'autre, parce que c'est de ça dont il s'agit dans cette tragédie-là. Et j'ai essayé ces parcours-là avec des pièces vocales ou une espèce de oratorio profane. Et puis voilà, l'idée de l'autre, c'est quelque chose qui m'obsède. Et là, j'essaye de l'aborder par un autre biais, celui de la mère. La mère en tant que lieu d'histoire, la mère qui cache, la mère qui trompe. C'est une phrase du poète Derek Walcott qui m'intrigue beaucoup, c'est « See is history ». La mer est histoire, alors je vais essayer d'explorer un peu qui se cache derrière, et j'essayais de raconter cette tristesse de l'absence, et puis ces paysages si trompeurs, quoi. C'est une des idées qui m'a aussi marqué, c'est qu'il y a des migrants qui ont fait naufrage à des lieux tellement près des plages, des vacances, ou dans l'esprit des Grecs sont liés à des moments de temps d'insouciance. Et cette espèce de contraste violent, plus que violent, absurde, ça me marque. J'essaie d'explorer, j'essaie de voir qu'est-ce qui se cache derrière ça.
Surtout que quand on regarde la mémoire grecque, il y a la grande catastrophe de 1922-23 où la population de Smyrne doit en quasiment une nuit quitter l'Anatolie pour aller en Grèce. Pour presque dire que là il y a un retour, là c'est pas la population grecque d'Anatolie mais une population qui vient de Syrie ou d'Irak qui veut absolument sortir d'un espace du conflit.
Ah, c'est tout à fait ça. Enfin, le parallèle avec Izmir 1922, ça s'arrête au fait que la fuite des réfugiés a été couverte par l'armée grecque. Du coup, malgré le fait que ces gens-là ont perdu tout ce qu'ils avaient, et puis l'histoire ça s'est répétée aussi en Chypre en 1974, et ils ont toujours quand même été respectés en tant que personnes et puis intégrés dans le corps de la nation. Mais après, comme ma grand-mère qui était de Smyrne me disait que les années sont passées, pierre par pierre, instant par instant, ils ont construit une nouvelle vie heureuse, ils ont vu leurs enfants évoluer, mais qu'à la tombée du soir, il y a toujours la pensée qui va vers les quartiers de leur naissance et leur maison de famille. Et cette amertume-là ne s'en va jamais.
C'est ce qu'on entend dans le Rebetiko.
En grande partie. Enfin, ça, c'est le Rebetiko des années 30 où on a en grande partie la nostalgie de la terre perdue. Le Rebetiko, c'est aussi la tristesse de la vie et puis cette espèce d'oxymore de toujours chanter et faire la fête pour oublier une vie pesante.
Sur quoi vous appuyez comme tech? Quelles sont les composantes qui jouent dans ce projet?
Pour ce projet-là, qui s'appelle Une autre Odyssée, le texte, c'est Eri de Luca. Son texte, il définit, peut-être par vision poétique, le nombre de personnes qui disent le texte-là. Alors, il y a des poèmes où il écrit à 6 voix, il y a d'autres qu'il écrit à 2 voix. Alors, je vais le prendre à la lettre et je vais faire comme il dit. Mais en tout cas, la pièce est pour un sextuor vocal, 3 musiciens. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de faire en sorte à ce que toute la Méditerranée, dans sa dimension géographique et dans le temps, vibre et pleure pour ces migrants-là. C'est-à-dire, il y aura des pièces funèbres des Renaissances, des pièces funèbres des musiques traditionnelles des différents peuples de Méditerranée, et évidemment des créations originales. Mais mon ambition serait qu'on voit pas la différence, que les choses glissent les uns dans les autres, les uns à travers les autres, sans qu'on se dise, ah, ça c'est un moment de musique, de répertoire, ça c'est un moment de création, ça c'est un moment de référence. Que tout soit dans une espèce de fluidité. Et puis cette idée de veillée funèbre, ça me plaît beaucoup comme idée. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu dans les traditions méditerranéennes, et j'ai envie de retrouver cette sensation de lamentation, mais qui raconte la vie.
Et donc, il y aurait une voix méditerranéenne, une voix VOX?
Oui. Il y a une voix méditerranéenne, où il y a un style, une manière d'aborder les chants qui est lié avec la terre, lié avec le bas du corps, les pas. Il y a peut-être une différence avec les voix du Nord qui cherchent toujours l'élévation. Et je pense que dans la musique méditerranéenne, on cherche toujours à pénétrer la terre, à faire corps avec elle.
On peut définir cette tradition, ou pouvez la définir cette tradition, ou est-ce que c'est quelque chose qui reste compliqué entre peut-être la tradition des îles et puis par exemple chez vous la tradition orthodoxe?
Il y a tout ça. En fait, en gros, c'est la famille des musiques modales. Et les musiques modales, quand on creuse un tout petit peu, on voit que toutes les musiques qui vont du Maroc jusqu'en Asie centrale, elles ont les mêmes caractéristiques, mais selon l'endroit et le peuple, il y a un peu plus d'ouverture vers l'improvisation ou vers la polyphonie ou vers la construction mélodique. Mais à chaque fois, il y a des itinéraires obligés. Et du coup, on a des choses qui sont jamais pareilles, mais toujours reconnaissables. Et c'est ce que je vais essayer de faire.
Quel est le groupe d'interprètes que vous allez voir?
Alors, c'est la Main Harmonique, c'est un jeune ensemble spécialisé à la musique des Renaissances, mais qui fait toujours appel à des jeunes compositeurs ou deux compositeurs vivants. C'est la deuxième fois qu'on va travailler ensemble, mais ils ont déjà travaillé avec d'autres compositeurs. Et cette espèce de côte à côte, la musique des Renaissances, qui est une musique adressée à un public connaisseur, parce que souvent dans les madrigaux, on donne les titres du poème que les gens connaissent. Du coup, ils n'ont pas à comprendre les textes directement. Du coup, forcément, le compositeur est plus libre et plus en contact avec le public parce qu'il y a une convention. Du coup, quelque part, ça nous rapproche au public des musiques contemporaines et du coup, si j'arrive à faire en sorte à ce que le public aussi change d'attitude, ça serait peut-être une réussite.
Donc la musique peut se trouver confrontée comme une musique affermata, un univers fermé, cultivé, érudit. Dans la Renaissance, c'est lié à ça, à des académies même. Et puis, et la notion de l'ouvert qui ferait appel à une autre dimension, c'est jouer sur ces deux configurations.
Glisser de l'une à l'autre, parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça que notre pensée fonctionne. Et j'essaye absolument de faire une musique d'aujourd'hui, mais qui n'auront pas les liens, mais qui les met en valeur, et que le passage, c'est pas juste un moment d'attente, mais le cœur des projets. C'est comme ça que j'ai vu notre monde. Alors je me sens à la fois compositeur, inventeur qui peut aller vers la matière et les sons organisés. Je me sens aussi compositeur qui réunit des choses qui existent déjà et même qui est arrangeur, manipulateur des choses qui lui appartiennent pas pour créer à travers tout ça une esthétique multiple, multistylistique, toujours à des fins poétiques, toujours pour raconter quelque chose qui fait partie de notre vie.
Vous avez une grande expérience du théâtre, je dirais, dans toutes ses dimensions, de la musique de scène, mais en même temps, d'être un musicien de scène.
Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et même dans mon esprit, j'avais développé des notions comme celle de la scénographie sonore. Dans mes propres projets ou dans les projets où je travaille avec des metteurs en scène, j'ai fait un peu comme les scénographes. J'invente des espaces, des espaces-temps sonores, au sein desquels les textes théâtrales évoluent, et selon cet espace-là, il prend des couleurs, voire même des significations différentes.
Dans ce projet, vous allez aller à la rencontre de l'autre, des publics, des jeunes, il y a des activités qui accompagnent, qui accompagnent ce projet?
Tout à fait, on est en train de préparer tout ça petit à petit. Peut-être on fera une rencontre débat, et puis des interventions auprès des écoles pour qu'il y ait un échange. L'art et la musique, ça peut servir aussi à ça, à aiguiser encore plus la sensibilité autour de ces questions et provoquer encore et toujours le débat. Après, c'est vrai qu'avec un tel projet, il y a toujours un petit risque de manquer de tact ou de ne pas trouver la distance suffisante pour respecter quand même quelque chose qui est et reste une tragédie. J'espère qu'on va trouver la bonne distance, le bon équilibre, et puis que même si on se trompe, on sera pardonné.
Merci Alexandros.